Bonjour à tous les auditeurs de Radio Aligre. Bonjour Isabelle, Isabelle
Bonjour
Raviolo.
Nathalie Perrin.
Voilà, Nathalie Perrin, Isabelle Raviolo pour l'émission Philosophie au présent, en partenariat avec Aligre FM qui nous reçoit dans ses studios depuis 3 ans, un partenariat qui se passe bien avec le Collège International de Philosophie, institution à laquelle nous appartenons encore, Isabelle, pour quelques temps.
Mais
l'émission va perdurer sous la forme d'un collectif qui va continuer l'année prochaine. Voilà, nous serons les référentes, mais voilà, nous, bientôt, on ne sera plus directrice de programme. Voilà. Et donc, on a le plaisir de se retrouver aujourd'hui encore à Radio Aligre pour cette avant-dernière émission de Philosophie au présent, autour de Dinu Lipati. Et nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui de nouveau, nos auditeurs s'en souviendront, Guilhem Chamera. Bonjour, Guilhem.
Bonjour.
Voilà, tu nous proposes. On ne va pas faire semblant de se vous soyez, hein, puisque de toute façon, voilà, on se dit tu dans la vie, parce qu'on travaille ensemble et de fort belle manière. Alors, une émission sur Dinu Lipati, on en a eu l'idée tous ensemble, la dernière fois qu'on avait fait une émission ensemble, et que tu as intitulé « L'éternité regarde à la fenêtre du temps ». Hein, pour ce spécial Dinu Lipati. Guilhem, on va te laisser te présenter, parce que tu as une chaîne YouTube.
C'est ça, exactement, une chaîne YouTube qui s'appelle « Sophronie Christ », et où, jusqu'à présent, je postais des interprétations classiques qui ont marqué l'histoire de l'interprétation. Et maintenant, depuis cette année, un podcast qui s'intéresse principalement aux grands interprètes du passé.
Voilà, et donc, nos auditeurs s'en sont souvenus, tu es un fin connaisseur de la musique, puisque tu étais venu le samedi 19 mars pour faire la musique Un art du temps. Et voilà, ils ont pu constater avec nous ô combien tu étais féru de musique classique. Et par ailleurs, tu fais des études de
philosophie.
De philosophie.
Oui,
voilà.
À Paris 1 Sorbonne, j'ai eu la chance de vous avoir comme étudiant.
Voilà, super. Bon, alors, on va peut-être commencer par ce Dinu Lipati, qui est un homme assez extraordinaire.
Oui, un pianiste éblouissant.
Éblouissant,
très jeune.
Tout à fait, à l'âge de 33 ans. Alors, une petite présentation pour nos auditeurs qui ne le connaîtraient pas. Donc, il est né le 19 mars 1917 à Bucarest et il est mort, voilà, tu le disais à l'instant, Isabelle, le 2 décembre 1950 à Genève. Donc, pianiste roumain dont la carrière s'est arrêtée brusquement par une mort à l'âge de 33 ans. Une mort
il a très eu précoce. La maladie de Hodgkin.
Voilà, exactement.
Un lymphome, je crois.
Voilà, tout à fait. Par ailleurs, j'ai pu lire, ce qu'on appelle aussi une leucémie. Hein. Il était donc très, très admiré par son époque, en tout cas, et maintenant il est porté au nu pour son sens du rythme, du tempo, pour la pureté de son jeu. On va s'en apercevoir, puisqu'on va passer aujourd'hui 4 extraits de Dinu Lipati, et il est connu pour ses interprétations de Chopin, de Bach, de Mozart ou éminemment de Schubert.
Et Brahms aussi.
Voilà, bon, entre autres, et puis on écoutera aussi Ravel, bon, voilà. Et moi, bon, ces valses de Chopin, moi j'ai découvert comme ça. Hein, moi qui n'aimais pas Chopin, j'ai aimé Chopin avec Dinu Lipati. Je pense que tout le monde pourra être d'accord avec moi. Et ce sont d'ailleurs ces valses-là qui ont été enregistrées quelques mois avant sa mort. Hein, Guilhem, tu confirmes.
En 1950, exactement.
En 1950. Et c'est toujours considéré comme une référence.
Quasiment absolue.
Oui, je suis ravie parce que je n'aimais pas Chopin par des interprètes dont je tairai le nom ici. Je ne le tais pas, Maria João Pires. Moi, je n'aime pas. Et voilà, et j'ai découvert que Chopin avait vraiment une vie grâce à Dinu Lipati. Voilà, je me permets de parler personnellement. Donc, il ne s'appelle pas Dinu, d'ailleurs, mais Constantin Lipati, qu'on a appelé depuis son enfance par le diminutif Dinu.
Oui.
Voilà, son père était violoniste. Hein, il est d'une famille de musiciens. Son père avait étudié avec un certain Pablo de Sarasate. Sa mère était pianiste et son parrain Georges Enesco était un compositeur du XXe siècle fort connu. Il a fini seulement. Alors là, une petite anecdote qui va nous servir puisqu'on va écouter tout à l'heure Alfred Cortot. Il a fini deuxième au concours international de Vienne de 1934 et ça a conduit Alfred Cortot, qui a donc été on pourrait dire son maître, hein, a démissionné en signe de protestation de ce jury, puisque Lipati avait été classé second. Hein, tu confirmes, Guilhem, hein, très, très belle histoire. Et donc, par la suite, Lipati est allé étudier sous la direction de Cortot, hein, de Nadia Boulanger et aussi de Paul Ducas pour la composition, et avec Charles Munch, hein, bon, j'espère peut-être un jour nous ferons quelque chose autour de Charles, le grand Charles Munch, oui, pour la direction d'orchestre. Donc dès 1936, il a fait des tournées, hein, de concerts, il a enregistré des disques avec le producteur Walter Ledge. Et de 39 à 43, il a donné des concerts en Roumanie avec Georges Enescu et Wilhelm Mengelberg. Évidemment, la Seconde Guerre mondiale arrive là-dessus, donc il y a une espèce de coupure, hein, dans sa musicographie. Il a fui la Roumanie en 43, il s'installe avec celle qui deviendra sa future femme, Madeleine Cantacuzino ou Cantacuzène, hein, je prononce un peu à la française, qui était professeur de piano réputé. Donc il s'installe à Genève, où il accepte une classe de virtuosité au conservatoire que lui propose son directeur, Henri Gagnebin, hein, qui est un organiste et un compositeur renommé, hein, relativement à cette époque. Donc c'est à ce moment-là que vont apparaître les premiers signes de sa maladie, de Hodgkin, qui va diminuer la fréquence de ses concerts et, après la guerre. Et donc il meurt à Genève à 33 ans et il repose dans le cimetière de Schönbourg, oui, non loin de la frontière française, aux côtés de sa mère et de sa femme. Et d'ailleurs, Isabelle Raviolo, tu nous as proposé un petit fascicule que nous mettrons à la disposition des auditeurs sur le podcast dès qu'on aura tout récupéré.
Et Nathalie, on rappelle qu'il a été élu en 1997
à titre
posthume,
tout à fait,
membre de l'Académie roumaine.
Voilà, donc on s'arrête un petit peu pour cette présentation un peu trop large. Et nous allons donc passer la parole à Guilhem. Et comme d'habitude, on va essayer un petit peu de relancer, hein, par des petites questions ce que tu as préparé pour nous aujourd'hui. Alors, quelles sont tes premières remarques générales concernant Dinu Lipati ?
La première remarque qui me vient à l'esprit quand je pense à Dinu Lipati, c'est sa vivacité. Le jeu de Lipati est extrêmement vif. Et c'est peut-être la caractéristique essentielle, la première qu'on retrouve dans chacune de ses interprétations. Et avec Lipati, le temps ne va pas paraître comme en suspens. Chez certains interprètes, il y a un côté hors du temps. Vous écoutez Clara Askill, par exemple, c'est exactement ce qui va sauter aux yeux. Chez Lipati, il y a quelque chose de plus apaisé sans pour autant se retrouver figé. Ce qui serait en contradiction avec le caractère mouvant et temporel de la musique. Certains interprètes, comme on le disait, placent leurs interprétations dans un moment comme hors du temps et même de l'espace, comme dans un autre monde, comme pour espérer autre chose.
Donc ça veut dire en fait que la musique de Lipati, elle est vraiment incarnée, elle reste complètement incarnée, elle reste, on pourrait dire, terrestre, absolument pas idéaliste. C'est ça que tu entends par l'idée d'une vivacité ?
Elle est terrestre quelque part, oui. Pour autant, on retrouve un peu de métaphysique, mais finalement, Lipati, on le verra, s'adapte beaucoup à chaque pièce. C'est une caractéristique qu'il a tirée de l'enseignement de Cortot notamment. Et quelquefois, il sait varier les climats. Mais effectivement, il subsiste quelque chose de terrestre dans chacune de ses interprétations. Et on parlait des interprètes comme hors du temps, qui espèrent quelque chose dans leur musique. Et j'avais retrouvé cette citation d'Alfred Cortot dans une masterclass qui est filmée, qu'on peut trouver sur YouTube, sur le dernier morceau des Kinderszenen, des scènes d'enfants de Schumann, opus 15. Et Alfred Cortot dit... Il me semble que le dernier morceau, Le poète parle, c'est là le titre que Schumann a lui-même ajouté à cette page immortelle, devrait être transposé sur un plan de rêverie plus intime. Pas seulement la belle sonorité, la détente expressive de la phrase, mais un sentiment plus rêveur. La vérité est qu'il faut rêver ce morceau, pas le jouer.
Ah, c'est très beau, hein, cette différence entre le rêve et le jeu. Alors comment peut-on... Donc il y a une différence finalement entre des interprètes qui rêve la musique, c'est ça, et d'autres qui la transposent, qui rêve la musique, qui la transpose hors du temps, et d'autres qui finalement sont complètement remettent la musique dans la réalité.
C'est exactement ça, c'est quelque chose qu'on observe, qu'on écoute plus exactement souvent avec Lipati, c'est qu'effectivement il y a une différence entre les interprètes qui vont rêver la musique, comme c'est souvent le cas avec Cortot, et ceux qui vont la transposer hors du temps pour évoquer ce qu'il y a, par exemple, de réel dans le rêve. Cortot, quand il joue le dernier morceau des Kinderszenen, Le poète parle, c'est rêver d'un bout à l'autre, c'est purement métaphysique. Chez Lipati, c'est autre chose. Il montre ce qu'il y a de réel dans le rêve, dans l'imagination, dans l'espoir, par exemple, et il va conditionner son jeu par une prise en compte de la réalité temporelle de la musique, comme on le disait.
D'accord. Donc, cette vivacité, en fait, de l'Hypatie, elle se résume à quoi, en fait? C'est aussi une question de génie ou de don ou de dextérité, de jeu même, de sensation du piano?
Comme on l'avait dit, comme on le verra, pardon, Alfred Cortot avait cette... Chez les élèves d'Alfred Cortot, on remarque cette grande liberté, et Cortot laissait de la liberté à ses élèves, ce qui fait que chacun de ses élèves est devenu très indépendant entre le jeu de Marcel Meyer, celui de Clara Askill, ou celui d'Inou Lipati. C'est parfois difficile de relever un point commun. Et la vivacité chez Lipati, ça revient presque, finalement, à ne pas nier le temps. Cela révèle ce qu'il y a de réel dans la musique par la conséquence du rêve, de l'imagination ou de l'espoir, comme je le disais. Et on rend intelligible le rêve, on ne le traverse pas devant l'auditeur. On lui restitue ce qui résulte d'un travail en amont, sans que pour autant l'auditeur ait un travail énorme à faire finalement. L'auditeur, il reçoit la musique, et derrière, il imagine lui-même.
Oui, on ne va pas en dire trop, mais c'est ce que tu as su identifier par rapport à l'Hypatie, c'est-à-dire une clarté du jeu, une grande clarté, et on ose presque dire une simplicité, mais au sens élégant du terme, presque au sens génial du terme, hein. Peut-être que génie est simple.
Et il y a une pureté dans son jeu. Et quand vous parlez du rêve, Guilhem, j'entends aussi ce début d'Aurélia de Gérard de Nerval. Le rêve est une seconde vie. Donc le rêve n'est pas une fuite hors du réel, mais au contraire, une entrée dans un monde musical qui nous permet d'être à l'écoute de l'inouï, en quelque sorte, avec l'Hypatie.
Et toujours dans un entre-deux, presque, dans ce que c'est Yankelevitch qui parlait du presque rien,
voilà.
Finalement.
Exactement, j'ai pensé à cela dans La musique est l'ineffable. En ce sens, on est vraiment avec l'Hypatie sur un jeu pianistique que l'on pourrait qualifier sur la corde raide, c'est-à-dire une façon d'interpréter qui, sans laisser comprendre, ouvre le monde du compositeur.
C'est exactement ça. Et toujours dans cette prise en compte du temps et de la vivacité chez Lipati, on remarque, c'est quelque chose que je remarque toujours avec les grands interprètes. Ils gardent cette capacité à donner l'impression que la musique se crée sur le moment. Et on revient encore une fois à cet instant de presque rien. Et par exemple, quand on écoute Clara Askill, c'est jouer les Kinderszenen de Schumann, jouer un concerto de Mozart. Et quand on écoute Inou Lipati, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Ça rend réel et organique la musique au sens de l'auditeur. Et le temps, il fait partie du jeu de Lipati, car l'Hypatie n'est pas hors de la représentation.
Alors, Guilhem, je te laisse annoncer le premier morceau que nous allons écouter de Inou Lipati. Il s'agit donc...
de la sonate Köchel 310 de Mozart, la 8e, où l'on remarque une vivacité absolument énorme, tout simplement. Thank you.
Voilà, et nous remercions Antoine Ollet qui est à la technique aujourd'hui et qui nous aide, voilà, à placer les musiques, voilà, à faire ça, on fait plein de petits signes pour lui montrer, il est là, heureusement. Merci beaucoup Antoine. Alors nous écoutions là une version de Mozart par Dino Lipatti, la sonate K310. Alors nous sommes sur ces remarques générales, hein, autour de ce grand musicien Dino Lipatti que nous aimons tous les trois, que nous voulions partager avec les auditeurs de Radio Aligre et de Philosophie au présent aujourd'hui. Alors la seconde idée, hein, grande remarque générale pour toi concernant ce musicien, ce pianiste, et Guilhem, c'est une manière d'incarner l'évidence, hein, c'est ça qui te paraissait aussi remarquable dans cette musique.
Exactement, on en parlait au début, parce que les interprétations de Lipatti, elles incarnent, elles respirent l'évidence en une forme, on en parlait, de simplicité au sens élégant du terme. Et cette apparente simplicité rend intelligible un propos musical qui est toujours clair et véritablement intelligible. C'est ce qui permet de rendre à l'auditeur, sans l'altérer, tout ce qui peut constituer la complexité d'une pièce.
Alors on va rappeler un petit peu ce que veut dire le mot évidence, hein. C'est la chose immédiatement perceptible, hein. Ça a à voir avec l'evidentia latine, hein, le voir, ce qui s'impose de manière claire et distincte, hein. Donc cette manière d'incarner l'évidence de Dino Lipatti s'exprime comment tu nous parlais lors de la préparation de cette émission d'un interprète très humble, comme l'était déjà son maître.
Alfred Cortot, exactement. Lipatti et les élèves de Cortot, de manière générale, respirent l'humilité. Et le style d'Alfred Cortot, ça se caractérisait d'ailleurs en premier lieu par une grande humilité devant la composition, parce que l'interprète se mettait au service de la musique. Et il s'en dégageait de fait une attitude profondément sincère. C'est ce qui saute aux yeux pareil quand on écoute Cortot. C'est la sincérité. Et chez Cortot, comme chez Lipatti, il y a une grande clarté dans la manière d'interpréter, sans négliger ni la part d'ombre, que requièrent certaines pièces, ni celle de virtuosité. On parlait de la classe de virtuosité d'Dino Lipatti, par exemple.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce que tu entends par cette part d'ombre de la musique? Opposé peut-être à cette évidence. C'est quoi pour toi la part d'ombre musicale?
Finalement, c'est rendre l'ombre évidente.
Oui.
Et Lipatti comme Cortot, ils ont cette capacité à s'adapter à l'œuvre et à ce qu'elle exige. Et c'est également ce qui va permettre à Lipatti de ne pas ajouter de sentiments qui seraient excessifs, qui seraient superflus donc, à des œuvres déjà très sombres ou très complexes.
Oui, c'est ça. Moi je suis très sensible à ça, je supporte pas particulièrement avec Chopin, c'est souvent ce qui faisait
souvent
que les interprètes en font trop avec Chopin, et quand on écoute Chopin par Dino Lipatti, mais c'est d'une simplicité, oui, d'une évidence, d'une clarté, et comme si, alors ça c'est assez fort, hein, comme si le pianiste, c'est un paradoxe, il est génial, mais il est invisible. C'est ce que tu appelais l'humilité de l'interprète.
Hein. Oui, et j'aime beaucoup cette vertu d'humilité chez l'interprète Dino Lipatti. Je l'appellerai volontiers, si vous êtes d'accord, Guilhem, la capacité de faire place.
C'est exactement ça. C'est faire place au compositeur, lui donner la place qu'il mérite.
Et donc, pour le coup, il faudrait se mettre un petit peu de côté, en tout cas mettre son ego en arrière. Mais le paradoxe, c'est d'y imprimer une sensibilité et une âme, puisque l'interprétation de Dino Lipatti, les interprétations de Dino Lipatti sont incomparables à nul autre, enfin sont comparables à nul autre. Donc il y a cette espèce de paradoxe, et on se met au service de la musique, et c'est en se mettant au service de la musique qu'on rend cette interprétation absolument singulière.
Exactement, il y a une œuvre où Lipatti se met particulièrement bien au service de la musique, parce qu'on a presque l'impression qu'il change son style habituel. Son style habituel qu'on connaît dans Chopin, dans les impromptus de Schubert dont on parlait en introduction, et c'est l'Albodora del Gracioso de Ravel.
Oui, magnifique. Alors donc, j'en conclus, Guilhem, que tu nous proposes de l'écouter.
Exactement.
Voilà, merci beaucoup. Thank you. Merci beaucoup Antoine Ollet à la technique, voilà qui nous permet malheureusement de couper un peu ce morceau qui est une pure splendeur. C'est Alborada del Gracioso, donc c'est Ravel joué par Dinu Lipati. Moi j'avais longtemps en tête, on en parlait hors antenne avec Guilhem et avec Isabelle Raviolo, Guilhem Chaméra et Isabelle Raviolo. Moi j'avais longtemps dans les oreilles eu la version de Pierre Boulez avec le Berliner Philharmoniker. Voilà donc la version orchestrale. J'avoue que c'est assez étonnant hein, ce jeu de Lipati. Voilà, je te remercie Guilhem de nous avoir proposé d'écouter cela. Hein. Ça me voilà. Comprendre un musicien, c'est aussi faire des comparaisons hein, sur les jeux sur un même compositeur. Très belle version. Alors Guilhem, nous avançons. Là, nous sommes dans une comparaison entre le maître et le disciple. Voilà, le maître et l'élève. Voilà, Lipati et Cortot.
Et Alfred Cortot.
Alors l'enseignement de Cortot, tu tenais à nous en parler.
C'est un enseignement qui est mythique, dont on parle encore aujourd'hui, qui était très particulier, qui était novateur aussi à l'École normale de musique qu'il a fondée avec Jacques Thibault, notamment le violoniste. Et on parlait de la manière de s'adapter à l'œuvre, de se mettre en retrait. Et voici ce que Cortot disait à ses élèves. La nationalité, l'époque, le caractère individuel de l'auteur, son degré de culture, les événements de sa vie, les milieux qu'il aura traversés, ses lectures même, l'ayant influencé dans sa création, une mise au point spéciale pour chaque œuvre sera indispensable à l'interprète qui prétendra la faire revivre.
Donc là, ça dit véritablement qu'on ne joue pas un morceau comme ça in vitro, mais vraiment on s'inscrit dans une époque quand on joue le morceau d'un interprète. Ça veut donc dire que la musique, elle est complètement... C'est une matérialité, elle appartient à la matière historique d'une certaine manière, ou à la matière culturelle, tout
les
au moins.
Les deux, chez Cortot oui. Déjà, alors bien évidemment, des années plus tard, ce sera avec Nicolas Sarnoncourt, le mouvement qui revient aux instruments d'époque, par exemple, mais ça c'est plus tard.
Oui. Alors donc, tu nous citais cette magnifique phrase de Cortot, alors là on est vraiment sur la qualité propre de cet enseignement de Cortot qui s'incarne dans quel type de style ?
Justement, non seulement la qualité de l'enseignement de Cortot s'incarne dans la diversité du style de ses différents élèves, on parle de Dinu Lipati, de Clara Askill, de Pnina Salzman ou de Marcel Meyer, on peut faire l'expérience, hein, les auditeurs peuvent faire l'expérience, ils prennent une pièce qui a été jouée par plusieurs de ses élèves et parfois c'est très très difficile de trouver qu'ils ont le même prof. Quand on écoute par exemple la sonate 450 de Scarlatti par Lipati et puis par Marcel Meyer, ce sont deux mondes complètement différents. Et ça, cette qualité de l'enseignement, ça permet à chacun de ses élèves de s'adapter à la composition et à ce qu'elle exige. C'est l'Alborada et Lipati. Oui. Et par exemple, le jeu de Lipati n'est pas du tout le même, bien qu'il existe des similitudes, que ce soit Ravel ou Mozart, comme on l'a vu.
Oui, donc alors en fait, cet enseignement de Cortot, tout en inscrivant l'œuvre dans une histoire, dans une culture, permet à ses élèves, à ceux qui vont interpréter cette pièce, d'y mettre du leur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de scientificité, on pourrait dire, de la musique, bien qu'il y ait un immense respect de l'auteur que l'on joue, que l'on interprète. Il y a quelque chose de soi doit passer dans cette interprétation, ce qui fait qu'un même morceau peut être décliné de...
une infinité de manières différentes.
Tout à fait. Donc une seconde, alors là tu nous proposais entre Cortot et Lipati de comparer leur style.
Leur style exactement, au cœur du sujet. Et la première chose qu'on remarque, comme chez le prof et chez l'élève, on remarque tout de suite un sens inouï donné au détail. Il y a un sens de la précision et de la mise en avant du détail. Et la différence, elle se situerait plutôt d'abord dans une forme d'allant et de légèreté chez Lipati, tandis que Cortot va travailler le relief, souligner les contrastes. Chez Lipati, c'est la vivacité même qui va creuser, et on pourrait même dire sculpter pour faire des ponts entre les arts, l'œuvre et lui donner toute sa profondeur.
Alors, les auditeurs se demandent qu'est-ce que c'est que le relief d'une musique. Il faudrait. Qu'est-ce que c'est que. Quand tu dis que Cortot travaille davantage le relief, qu'est-ce que c'est que le relief d'une musique ?
Le relief, alors ça s'incarne dans différentes choses, mais une bonne manière de remarquer le relief, c'est par exemple la dynamique, la différence entre les graves et les aigus. Ou à l'inverse, alors par exemple, tomber dans le maniérisme, c'est quelque part mettre trop de relief. C'est faire un rallentando là où c'est absolument pas nécessaire. C'est trop varier le tempo de manière à perdre la cohérence. la musique se situe finalement beaucoup dans la cohérence, en tout cas sur un morceau classique, notamment en plusieurs mouvements, par exemple.
D'accord. Trop de relief ou pas assez?
Pas assez, c'est plat.
Voilà, c'est plat. Et trop de relief, bah, finalement, c'est un peu l'incarnation de... Une trop grande incarnation de l'interprète dans la musique d'un auteur.
C'est le défaut souvent de la musique romantique, en tout cas des interprètes romantiques de la fin du 19e, du début du 20e. Il y a un pianiste, par exemple, dont le jeu est assez dépassé, même s'il subsiste des enregistrements, c'est Ignacy Jan Paderewski, qui était un grand virtuose polonais, par exemple.
D'accord.
Mais donc, c'est intéressant, hein, ce que vous dites, parce que j'étais au Louvre ce matin, dans l'aile Denon, et je contemplais des tableaux italiens, d'Italiens, du Quattrocento, et entre un Giotto di Bandone, du XIIIe siècle, un Fra Filippo Lippi, il y a un monde, et ce monde est noté par une manière de peindre. Donc on peut aussi rester à la manière de Dino Lipati en musique, en peinture, c'est-à-dire faire place, comme vous le disiez, par l'humilité, mais aussi donner à sa position d'artiste, celle d'un porte-parole, beaucoup
exactement,
plus que d'une parole elle-même, puisque quelque chose passe à travers nous, tout à fait.
C'est aussi tout le problème, toute la force de l'art religieux, c'est cette manière de passer le message, finalement, que ce soit chez Giotto ou chez Lippi.
Ben, voilà.
Donc on était dans cette comparaison des deux styles. Tu parlais à l'instant de Lipati, de sa vivacité qui va creuser ou qui va même sculpter l'œuvre et lui donner sa profondeur. Alors finalement, le style de Lipati, on disait tout à l'heure, est plus terrestre.
Plus terrestre, exactement.
Et celui de Cortot...
Plus métaphysique.
Plus métaphysique, oui. Même si tu le disais dans ton travail, tous deux semblent souligner tout ce qui peut faire la noblesse des œuvres.
Hein, exactement. C'est ce qu'on ressent toujours. Mais même chez les élèves de Cortot, finalement, il y a toujours une forme de noblesse, d'élégance.
Oui, tout à fait. Alors, donc, là, peut-être qu'on a prévu pour les auditeurs d'écouter un morceau de Cortot, mais qu'est-ce qu'on pourrait dire encore de ces deux styles de musique, d'interprète?
Finalement, ce qu'il y a de commun chez Lipati comme chez Cortot, c'est qu'ils tendent plus vers l'affirmation que l'interrogation. Et ça s'incarne particulièrement dans la manière dont Cortot va maîtriser les silences. Là où Clara Askill, on revient au poète parle de Schumann, décidément, eh bien, elle est en train, par exemple, de réconcilier de différentes réponses possibles aux questions que pose l'exécution de la pièce, si ce n'est la pièce elle-même. Et Cortot et Lipati sont plus dans une forme d'allant, d'affirmation pour le coup.
Alors on va peut-être écouter
exactement,
un extrait
Cortot
que tu as choisi.
La sonate 3 de Chopin, le mouvement lent.
Voilà. Thank you. Voilà, superbe morceau de Cortot. Là, nous écoutions, Guilhem.
La sonate 3.
La sonate numéro 3.
De Frédéric Chopin.
De Frédéric Chopin. Magnifique interprétation. Hors antenne, tu parlais, Guilhem, donc nous recevons Guilhem Chaméra aujourd'hui pour cette émission spéciale d'Inoulipati. Tu nous parlais, Guilhem, hors antenne, d'interprétation aristocratique.
Au sens vertical, finalement.
Oui.
Au sens, on est purement dans la métaphysique.
Oui.
Chez Cortot.
Voilà, c'est-à-dire, alors c'est une manière un petit peu de quitter la terre.
C'est une manière de quitter la terre.
Ouais.
Sans arriver, il y a quand même, ça reste torturé ici. On n'est pas, on parlait de Claudio Arrao, le sentiment de plénitude durant le morceau. Et finalement ici, ça reste torturé, ça reste incertain ou un sentiment d'insécurité qui subsiste.
Oui, mais alors ce que tu entends par métaphysique et aristocratique, c'est-à-dire c'est une manière de quitter un petit peu le sursentiment de l'interprétation ou peut-être l'aspect... On associe souvent la musique à du visuel. Or, ce n'est pas ce qui ressort de Cortot,
c'est
en fait.
En tout cas, dans cette sonate 3, je trouve que ce n'est clairement pas ce qui ressort. C'est pas, on peut parler de la couleur de chez Clifford Curzon, on parle souvent de la couleur et de la sonorité qui est extrêmement colorée, de toutes les nuances. Ce n'est pas forcément ce qui va sauter aux yeux, pour le coup, ici.
Oui, tout à fait. Donc là, il y a une espèce d'idée même de l'interprétation. Enfin, c'est l'interprétation comme idée.
C'est l'interprétation comme idée, c'est exactement ça.
Tout à fait. Isabelle, magnifique interprétation de Cortot qu'on vient d'écouter.
Oui, hein. Je suis sous le charme.
Oui.
Comme envoûtée par cette interprétation. Comme Guilhem le disait, elle est verticale.
Mm-hmm.
Donc elle nous verticalise aussi. C'est-à-dire qu'elle nous met dans une disposition... d'être à l'écoute d'une musique. Et quand je dis à l'écoute, j'entends par là disponible à une profondeur.
Oui, oui, tout à fait. Alors, nous sommes là dans un troisième moment de notre émission.
Ce qui fait la singularité de l'Hypatie.
De l'Hypatie. Alors, qu'est-ce qui fait sa singularité pour toi, ce que tu as appelé le relief sur lequel nous revenons?
On revient au relief, finalement.
Oui.
Chez Cortot, on l'a entendu là, le relief, c'est là, il a la place, finalement,
oui.
Avec un grand L. Mais l'Hypatie va donner un relief qui est particulier, qui est peut-être plus discret, plus nuancé aussi. Et... Ce relief s'incarne particulièrement bien dans la manière avec laquelle l'Hypatie va travailler les transitions entre les différentes parties d'une œuvre. Les transitions, c'est essentiel pour ce qu'il s'agit de la cohérence globale de l'œuvre. Et c'est par exemple ce qui fait, en plus d'une sonorité colorée et riche de l'Hypatie, de l'interprétation de la Barcarolle, opus 60 de Chopin, ce qui est pour moi une référence quasiment absolue, peut-être avec Uragulaire, avec Vladimir Sofronitsky, mais... On est dans quelque chose de presque indescriptible avec la Barcarolle chez l'Hypatie.
D'accord, mais on aurait pu passer un morceau, mais bon, on a choisi autre chose tout à l'heure.
On a choisi autre chose,
voilà. Donc le relief, tu disais à l'instant, c'est un élément constitutif de la complexité d'une pièce. C'est ce qui... Mais alors, qu'est-ce qu'on peut entendre par cette complexité d'une pièce, par le relief? Et ici, comment ça s'exprime?
La complexité de la pièce, et on revient en fait au caractère d'adaptation propre aux élèves de Cortot. Toutes les pièces sont complexes, mais elles ne sont pas complexes de la même manière. Elles n'exigent pas, on peut parler climat par exemple, elles n'exigent pas un climat similaire, ou une ambiance, si vous voulez. Et le relief, c'est un élément constitutif, comme il y en a plein d'autres dans une pièce. Mais toutes les couleurs qu'on retrouve dans la sonorité de l'Hypatie ajoutent à la cohérence des œuvres, en plus. Chez l'Hypatie, c'est aussi ce qui saute aux yeux, c'est... une sonorité unique, parfois énorme dans les graves d'ailleurs. Et je précise que c'est important, quand on écoute l'Hypatie, d'écouter des bons reports. Puisque longtemps, quand les enregistrements de l'Hypatie ont souvent été enregistrés sur 78 tours. Or, le 78 tours, c'est technique, et ça amène ce qu'on pourrait appeler un crachotement, un gros chut.
Oui.
Et trop filtrer les 78 tours, ça revient à perdre des fréquences, et donc à perdre des couleurs qui sont de la sonorité de l'Hypatie.
Donc, on en conclut que si on a encore des vinyles, on les garde précieusement, c'est
ça ? Des vinyles ou des 78 tours, encore que en vinyle, ça a parfois été filtré.
Ouais.
Non, et j'en profite pour conseiller un site qui s'appelle 78experience.com, qui est le site d'un restaurateur québécois qui s'appelle Yves Saint-Laurent, comme le couturier.
C'est marrant.
Et il propose, il récupère des 78 tours, les restaure et ne filtre pas. Ces disques sont trouvables sur Internet.
Ah,
c'est d'excellent travail.
Ah, tu redis le
Yves
site ?
Yves Saint-Laurent, 78experience.com.
Ah, génial. Bon, pour nos auditeurs. Donc sur ce relief constitutif de la complexité d'une pièce chez Lipati, on peut peut-être écouter un morceau, ou tu veux rajouter quelque chose, Guilhem ?
On peut écouter un morceau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va écouter le même morceau qu'on a écouté il y a quelques minutes, le mouvement lent de la sonate 3 de Chopin. Simplement, on l'avait écouté par Cortot et maintenant on l'écoute par Lipati.
Hein.
Quelle merveille, mon Dieu. Ça y est, grâce à Guilhem Chaméra, j'ai enfin compris, voilà, ce que c'était que l'interprétation terrestre ancrée sur cette planète, hein, et quasiment dans le sous-sol de Monsieur Dinu Lipati, comparé à Monsieur Cortot que nous venons d'entendre à l'instant et dont tu disais, Guilhem, dont tu parlais de l'interprétation aristocratique. Là, on a vraiment entendu la terre de Monsieur Dinu Lipati. Hein, absolument pas métaphysique, absolument pas idéaliste, mais vraiment dans la matière musicale et dans la matière terrestre, Isabelle. Très beau morceau. Hein.
Oui, une matière qui pourrait être semblable à la matière des mots pour un écrivain, une manière de l'aimer, cette matière, en la respectant, c'est-à-dire d'être à cette distance nécessaire qui suppose à la fois l'écoute et la possibilité à l'autre d'écouter aussi. C'est-à-dire, au fond, je pensais à Julien Gracq dans son livre « En lisant, en écrivant ». Julien Gracq a cette citation étonnante dans ce livre où il dit qu'on écrit d'abord parce que d'autres avant vous ont écrit. Et l'écriture ne vient jamais sans la lecture, c'est-à-dire sans cet accueil de l'autre et un accueil qui n'est pas passif. Mais qui est, voilà, comme tu le disais, Nathalie, incarné, c'est-à-dire ancré dans cette réalité de la condition charnelle.
Oui, tout à fait. Pour être un grand interprète, il faut savoir accueillir l'auteur sur lequel on va travailler. Et ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure, ce que je n'ai pas dit en tout cas, c'est que Lipati n'est pas seulement un interprète, mais il a lui-même composé.
Exactement.
Donc cet accueil se fait aussi possibilité de création au sens... nouveau
au sens premier du terme.
Alors nous touchons à la fin de cette émission. Hein. Nous venons donc d'entendre une très très belle interprétation de la sonate numéro 3 de Chopin par Dino Lipati, opus 58. Et tu voulais terminer ce grand moment de la singularité de Lipati, qu'est-ce qui fait sa singularité, Guilhem, sur la place prépondérante laissée au détail dans cette interprétation?
Oui, chez Lipati, il y a une place donnée à des détails spéciaux, uniques, qui permettent à Lipati de sortir, on va parler du grand disque de Dino Lipati, les valses de Chopin, du caractère anecdotique qui semble les suivre dans tant d'interprétations. Parce que finalement, même si Cortot, Sofronisky ou Arao, qui sont mes trois autres versions de chevet des valses de Chopin, vont proposer des interprétations complexes, profondes, c'est bien chez Lipati que la magie semble le plus irriguer chaque valse d'un éclat nouveau, parfois brillant, et parfois joyeux aussi, mais parfois tragique ou entre deux. Et on sous-estime souvent, je crois, le rôle de l'entre-deux, de l'incertitude dans la musique. On parlait des interprètes qui semblent créer la musique devant nous, en direct. Alors que c'est tout ce qui peut faire la force narrative de la musique. Et on la retrouve particulièrement dans l'éclat, la vivacité, encore une fois, qui irrigue d'une magie toujours nouvelle ces valses de Chopin.
Tout à fait. Et on peut peut-être entendre d'ailleurs une valse de Chopin, opus 34.
Numéro 2, opus 34, numéro 2.
Numéro 2. magnifique.
Sublime.
Splendide, il n'y a rien à dire.
Bon, que des superlatifs.
Je vais dire quelque chose qui va froisser certains de nos auditeurs, mais comment écouter Chopin après Cortot et Lipati ? Bon, je m'arrête là, moi je fais partie de ces gens, quand ils aiment un interprète, ils l'aiment toute la vie, c'est absolument splendide. Guilhem Chaméra nous a fait l'honneur aujourd'hui de proposer une émission sur Dino Lipati. Guilhem, que voulais-tu ajouter après cette magnifique valse opus 34 numéro 2 de Chopin ?
Ça illustre en fait, cette valse illustre une capacité extraordinaire de Lipati, qui est de donner à des œuvres en apparence simples ou plus légères, typiquement ces valses de Chopin, qui nous paraissent anecdotiques dans tant d'interprétations, un caractère complexe, plus intérieur, ou un peu comme finalement ce dialogue de l'interprète avec lui-même qu'on pourrait retrouver lorsque Claudio Arrau joue Chopin, quand on écoute les nocturnes de Chopin par Claudio Arrau, qui sont là aussi une référence absolue, c'est cette interprétation dialogue avec soi-même qu'on entend.
Tout à fait. Alors on va peut-être terminer tranquillement l'émission, peut-être en citant, as-tu envie de citer certains sites qui te semblent importants et peut-être aider les auditeurs à mieux écouter Dino Lipati ?
Alors le premier extrait, ce serait un extrait de l'article de l'Encyclopédia Universalis sur Lipati qui a été écrit par Pierre Breton. Voici ce qu'il écrit. La trop courte carrière de Dino Lipati a cependant laissé dans l'histoire de l'interprétation pianistique une trace ineffaçable. À l'âge où tant d'autres atteignent à peine leur maturité artistique, une implacable leucémie mettait un point final à un message musical qui avait su trouver dans l'intériorité la forme la plus parfaite de l'émotion. Les quelques souvenirs sonores qu'il nous laisse restent pour tous le modèle absolu du mariage idéal, de la rigueur et de la sensibilité. Il n'y a qu'un seul Dino Lipati.
Très belle citation. Et une autre peut-être pour terminer.
Une autre d'un critique que j'aime beaucoup par ailleurs, qui est une référence en la matière en France, qui est Alain Lempêche, qui aujourd'hui travaille pour le magazine Classica, et qui a fait un livre, une excellente introduction, si nos auditeurs veulent découvrir les pianistes. C'est chez Buchet-Châtel, Paris 2012, ça s'appelle Les grands pianistes du XXe siècle, et Alain Lempêche écrit un relatif court portrait des grands pianistes qui ont marqué l'histoire de l'interprétation. Et voici comment il conclut son article sur Lipati. Toutes les interprétations de Dino Lipati sont marquées du sceau de la simplicité et de la nécessité d'une forme de vérité irrésistible. Son jeu guide toujours jeunes et moins jeunes pianistes à travers les incertitudes qui peuvent les assaillir au cours de leur développement artistique. L'écrivain Arthur Koestler écrit de lui l'épitaphe la plus juste qu'on puisse imaginer « L'éternité regarde à la fenêtre du temps ». Et finalement, n'est-ce pas là le titre qu'on a donné à cette émission ?
Tout à fait. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à Guilhem Chaméra. Voilà, tu nous rappelles ton site, ta chaîne YouTube.
Sophronicriste.
Voilà, et on a le plaisir de te voir et de t'écouter. Voilà.
Plaisir partagé.
Merci beaucoup. Et voilà, Isabelle.
Nathalie, tu devais nous annoncer une future émission.
Ah, bah oui, là, il faut. L'année prochaine, nous avons. Alors, donc, dans 15 jours, d'abord, nous nous retrouvons. Ce sera nos dernières émissions qui aura une thématique, je crois, autour de la littérature et de la philosophie. Pour l'instant, c'est assez large, mais on cherche à préciser la thématique. Et puis, pour l'année prochaine, on laisse la surprise à nos auditeurs. Nous allons proposer une autre émission. Voilà, à Radio Aligre, il y en aura deux comme ça. Voilà, mais ça, on laisse la surprise. En tout cas, merci beaucoup à Guilhem Chaméra, voilà, d'être venu aujourd'hui. Merci Guilhem. Isabelle, on se retrouve dans 15 jours. Isabelle Raviolo, merci beaucoup.
Merci Nathalie Perrin.
Et nous remercions Antoine Ollet de nous avoir aidés aujourd'hui à la technique.
Merci
Antoine.
Et
voilà, quand les podcasts seront mis sur le site, il vous attendra des petites surprises avec toutes les références de Guilhem, d'Isabelle Raviolo et de moi-même. Merci beaucoup. Très bonne journée sur Radio Aligre, la meilleure des radios.
Très bonne journée, chers auditeurs.
Eh oui, mais...